tout pédocriminel fait partie de la société. Ces individus-là sont les personnes que vous côtoyez au quotidien.
J'ai vu l'ampleur des abus ne cesser d'augmenter. J'ai vu l'âge des victimes diminuer de plus en plus.
Sans frontières ni régulation, Internet a entraîné l'explosion d'un fléau mondial, la pédocriminalité.
Maintenant, les pédocriminels se regroupent en communautés sur le web. Et c'est encore plus dangereux, car ça renforce leurs pulsions et leurs fantasmes.
Derrière leurs écrans, les enfants sont des proies bien réelles pour des prédateurs sans limite, qui profitent d'un anonymat sans cesse renforcé par la technologie.
Je ne comprends pas comment ces PDG de l'industrie de la tech peuvent se réveiller tous les matins en se disant « C'est génial, tout va bien ».
Face à l'ampleur du phénomène, la communauté internationale s'organise. Ce film est le fruit de 4 ans d'enquête dans 8 pays, de la France aux Philippines, en passant par l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Amérique du Nord, aux côtés des services de police et des organisations qui traquent les prédateurs et luttent au quotidien pour la sécurité des enfants.
Lors de la 32e édition du FIGRA, Festival international du grand reportage d'actualité et du documentaire de société, la réalisatrice Laetitia Onona a proposé une enquête internationale sur la lutte contre la pédocriminalité en ligne. Entretien avec Laetitia Onona autour du film documentaire « Pédocriminel, la traque » qui était en lice dans la compétition internationale plus de 40 minutes lors de cette 32e édition.
Alors en fait, pour la jeunesse de ce film, chaque documentaire que je fais est un peu la suite évidente du précédent. Donc en fait, ça fait, on va dire, une vingtaine d'années que je travaille sur le traitement judiciaire des violences sexuelles faites aux femmes et aux enfants. Donc j'ai passé 7 ans sur un film sur le parcours judiciaire du viol en France qui s'appelle « Elle l'a bien cherché », qui est sorti sur Arte en 2019. Ensuite, ça a ouvert toute une question sur justement ce traitement judiciaire, la place des jurés dans un procès d'assises. Et tout de suite, il y a eu la création des cours criminelles, qui sont une cour d'assises sans jury populaire. Et donc, j'ai demandé l'autorisation de pouvoir filmer une audience en cour criminelle à Caen. Et là, c'était un procès pour inceste. Donc là, je suis rentrée vraiment les deux pieds dans l'inceste. Et c'était pas évident, évidemment. Et très vite aussi, on voit les tendances qui se dégagent quand on fait une enquête. Et puis tout ce qu'on ne peut pas traiter sur le moment en se disant « Ok, il va falloir que je me mette un autre documentaire là-dessus ». Et là, c'était un peu l'explosion de la pédocriminalité sur Internet, d'autant plus qu'on était en plein confinement et que je voyais bien, en tout cas de mes discussions avec les flics, les magistrats que je connais, etc., qu'on constatait que les enfants étant isolés et à qui on demandait d'être connectés beaucoup pour suivre les cours à distance, étaient clairement des cibles de choix pour des prédateurs qui, eux aussi, étaient isolés chez eux en télétravail ou voilà. Et donc ça m'a semblé assez évident de me lancer sur la pédocriminalité sur Internet. Après, il a fallu faire, au début je pensais que j'allais faire des choix parce que j'avais la problématique du grooming, donc de solliciter un enfant en ligne sexuellement et de le manipuler pour obtenir des choses de lui. Il y avait la sextorsion. Il y avait le live streaming aux Philippines et c'est vrai qu'on j'en ai parlé à Arte. Je lui ai dit alors il y a ça, ça, ça et elle m'a dit ça sera tout ça. Et en fait moi je pensais partir sur un 52 minutes et elle m'a dit mais non en fait il faut faire un 90 minutes. Ce sujet n'a pas été traité. Et comme c'était très international, elle m'a dit on part sur une enquête internationale. C'est comme ça que c'est arrivé.
Justement, il y a plein de choses dans ce reportage. On se demandait, parce qu'on voit justement des enquêteurs qui se mettent dans la peau d'enfants, qui répondent à ces pédocriminels pour essayer de les coincer. On s'est demandé si vous, au cours de votre enquête, vous aviez essayé justement de vous mettre dans la peau d'un enfant et d'essayer de coincer aussi, ou même pour connaître les motivations en fait, de ces pédocriminels sur Internet.
Alors c'est même une séquence, petite séquence du film, mais après la séquence chez les gendarmes qui effectivement travaillent sous couverture, on s'est infiltré sur Omegle, ce site dont les parents n'avaient jamais entendu parler, et moi d'où on me disait que dans les cours de récré c'était c'était un peu un must have ou the place to be pour les enfants, qui se disaient très clairement entre eux, si tu veux voir le zizi d'un homme, tu vas sur Omegle, parce qu'en fait, dès que tu te connectes en chat vidéo, il y a des hommes en train de se masturber. Enfin, on parle de cours de récré de primaire, hein. Donc, on est allé sur Omegle. Quand je dis on, c'est moi et puis des enquêteurs de la société de production. Et voilà, on marque F13, ça veut dire fille de 13 ans, et on voit ce qui se passe. Bon, bah, en moins d'une minute, on avait des sollicitations de H48, H52, H25, donc des hommes qui disaient leur âge comme ça, et qui très, très, très vite demandaient à jouer à Action Vérité, de faire des actions coquines, et très vite de passer sur Snap. Sur Snapchat. Très vite, ils demandaient le numéro de téléphone. Donc en fait, ça n'a pas été très long et très compliqué comme immersion, hein. Il suffit de quelques minutes. On a fait aussi rencontre ado. Et voilà, c'est en quelques minutes, on voit bien à quel point les enfants, les ados sont une cible immédiate pour des prédateurs qui sont très, très, très connectés, quoi.
Et en même temps, il y a une forme de banalisation, de normalisation dans la tête de ces jeunes où ils se disent « bah, c'est normal, tout le monde en reçoit, donc... » Pourquoi pas moi ?
Ah mais complètement. Moi j'ai beaucoup parlé avec des jeunes adultes, on va dire de 20-25 ans, et à chaque fois que je leur pose la question, ils me disent bah oui, bien sûr. Depuis, je veux dire, j'ai passé mon adolescence à recevoir des sollicitations. On voit bien que c'est des faux comptes, on bloque, ou alors je reçois des dig pics. Bon bah je bloque, et à chaque fois je demande mais est-ce que tu signales ? Ils me disent oh bah non, ça sert à rien. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette intégration complètement normalisée, que on est sollicité, qu'on est victime d'arnaque, enfin en tout cas. Tentative d'arnaque, et que tout ça est tout à fait normal, et puis bon bah on fait avec et on passe, on bloque dans le meilleur des cas. Évidemment, il y a des enfants plus vulnérables que d'autres qui vont se faire complètement manipuler, avoir, qui ne vont pas bloquer, et là effectivement le pire peut arriver, quoi.
Dans le documentaire, on voit notamment des pays comme les Philippines qui sont au cœur en fait, de ces phénomènes de sextorsion, de live stream aussi. Qu'est-ce qui explique que ces pays soient aussi touchés en fait, par ces pédocriminalités ?
Ce qui est terrible, c'est qu'en fait, on n'est toujours pas sorti d'un crime d'offre et de demande, donc de demande de la part d'Occidentaux pour qui $50, 50 euros, c'est vraiment pas grand-chose. Et des pays du tiers-monde, des pays en voie de développement, pour lesquels c'est une manne financière. Et qui ont une histoire très longue d'exploitation sexuelle des enfants, bien avant l'arrivée d'Internet. La prostitution des enfants, des rues, aux Philippines, en Inde, à Madagascar, en Thaïlande, en Malaisie. Enfin bref, tous ces pays qui ont une vraie histoire de prostitution et d'exploitation sexuelle des femmes et des enfants, se sont reportés aussi sur la version en ligne de ça. Et ce live streaming, ça semble être le comble de l'horreur et du cynisme, de se dire, bah, en fait, là, je ne peux pas voyager ou je n'ai même pas besoin de m'embêter à aller prendre un avion. Je vais assister à un viol que je vais créer, demander sur mesure et assister en direct depuis mon canapé, n'importe où, en France, aux États-Unis, en Australie, en Angleterre, absolument n'importe où. Donc on est encore sur cette horrible complémentarité entre des pays en voie de développement avec des gens qui ont besoin de manger et des Occidentaux qui profitent de leur pouvoir d'achat pour exploiter ces enfants.
Et en plus, ces live streams, ils ne laissent pas de traces en fait. Et ce que vous expliquez aussi, c'est que Internet, finalement, c'est un moyen pour les pédocriminels de se retrouver entre eux, d'échanger entre eux, de créer une espèce de communauté.
Ah, et ça, c'est complètement vertigineux, en fait, cette masse des connexions. Il y a tellement d'échanges toute la journée, de messages, de vidéos, de photos, dans un anonymat. Alors, pas toujours, c'est pas toujours anonyme en fait. C'est-à-dire heureusement qu'il y en a qui font des conneries, heureusement, et c'est comme ça qu'on arrive à les attraper. Le darknet, c'est clairement, ça permet une certaine forme d'anonymat, mais clairement, les enquêteurs sont là aussi. Donc oui, effectivement, cette méga connexion facile, pas chère, permet à des hommes, parce qu'il faut parler quand même essentiellement d'hommes, de se retrouver, de se regrouper, d'échanger et de normaliser leur comportement. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression d'être dans le vrai, que c'est eux qui aiment les enfants. Moi, je me suis malheureusement baladée beaucoup sur des forums sur le darknet de pédocriminels, Et je me souviens d'une fois où j'étais comme ça sur le forum et il y a un jeune homme de 16 ans qui vient en disant « Écoutez, c'est super de vous trouver parce que je suis attirée que par les enfants de moins de 8 ans et je pensais que j'étais complètement tarée. Mais quand je vous lis et que je vois, etc., ben, je me sens moins seule. » Et tout le monde de l'accueillir à bras ouverts en disant « Mais tu n'es pas seule, tu n'es pas fou, tu n'es pas tordu, c'est les autres qui ne nous comprennent pas. Nous, on sait ce que c'est que d'aimer un enfant. » Et là, il lui donne tous les conseils et les bons tuyaux pour ne pas se faire opérer. Donc c'est une communauté, mais ce n'est pas un réseau au sens criminel, mais c'est une communauté de gens qui se ressemblent et qui s'assemblent.
Et qui partagent même des tutos, des manuels à l'écriture très fine, hein, testés et approuvés pour ne pas se faire coincer, parfois même sur leurs propres enfants aussi.
Oui, le manuel du parfait pédocriminel, alors ça semble complètement lunaire, on n'y croit pas tant qu'on ne l'a pas vu, moi malheureusement je l'ai lu, et vu les images qui l'accompagnaient, je ne sais pas comment, à quel moment ils se sont dit on va faire comme pour un tuto de bricolage et on va se dire comment on fait, à quel moment c'est plus sympa de kidnapper un môme, comment on fait pour l'endormir, parce qu'on parle beaucoup de soumission chimique depuis l'affaire Pellico, la soumission chimique elle est utilisée aussi par les pédocriminels pour anesthésier les enfants, pour les endormir, pour abaisser leur vigilance. Donc tout ça se retrouve dans un manuel dont l'auteur dit que ça a été testé et effectivement approuvé sur ses deux filles. Je veux dire, ce sont des conseils très 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 pratiques pour que la mère ne s'en rende pas compte. Je ne vais pas donner les détails là, parce que voilà, mais effectivement, c'est des détails très très concrets, scientifiques, biologiques, pour violer un enfant sans éveiller les soupçons des personnes qui vont s'en occuper, la mère, la nounou, l'école, etc.
Alors il y a plusieurs choses aussi, déjà un chiffre que j'ai noté, l'Europe stocke à elle seule 66% des images pédocriminelles, la pédophilie est considérée comme un crime en France, par contre le fait que ces manuels soient en ligne et consultables, il y a quelque chose qui fait que c'est pas si illégal que ça, c'est ça ?
Alors, c'est un petit peu plus nuancé ou plus complexe dans le sens où, en fait, pour criminaliser la détention de fichiers pédopornographiques, il faut qu'il y ait des images d'enfants. Donc là, la détention, vous détenez dans votre ordinateur, votre téléphone, une image mettant en scène un viol d'enfant, vous êtes passible d'une peine délictuelle, c'est un délit, de détention d'images pédopornographiques. Les manuels qui n'en contiennent pas, qui sont que du texte, c'est comme si vous avez Mein Kampf chez vous et que vous l'échangez avec quelqu'un sur un serveur. Enfin, on ne peut pas tracer ça et on ne peut pas l'interdire. À moins qu'il y ait une apologie du terrorisme, de crimes contre l'humanité, etc. Donc si ce n'est pas public, c'est privé et qu'il n'y a pas d'image dedans, ça reste du texte. Et donc, tant qu'il n'y en a pas une publicité ou une image très graphique, effectivement, ce n'est pas illégal. Ça ne veut pas dire que les autorités françaises et la justice française trouvent ça formidable qu'il y ait des manuels de pédocriminels qui circulent en France. Absolument pas. Mais en tout cas, c'est le texte de la loi. C'est comme ça.
Se pose aussi la question de la responsabilité des plateformes, des réseaux sociaux, dans le stockage et dans la propagation en fait, de ces images, notamment sur les messageries cryptées.
Oui, les plateformes sont immunisées, en fait, par une loi, notamment aux États-Unis, qui fait d'eux de simples hébergeurs. Et on ne peut pas criminaliser, rendre responsable un hébergeur pour du contenu ou des mots ou des choses qui se passent sur ces plateformes, avec un bémol qui est qu'il faut mettre en place une modération de contenu. À partir du moment où ils remplissent le cahier des charges, on ne peut pas leur reprocher. Et c'est un petit peu tout ça qui est au cœur du débat en ce moment, et a fortiori avec la réélection de Donald Trump et l'allégeance de tous les patrons des plateformes, Elon Musk en premier et Mark Zuckerberg, qui a annoncé retirer la modération de contenu aussi de Facebook et de Meta. On est en ce moment au cœur de ce débat de la responsabilité des plateformes. Est-ce que c'est encore pertinent en 2025, avec l'Internet qu'on connaît aujourd'hui, l'explosion des réseaux sociaux, est-ce que c'est pertinent de maintenir cette même immunité d'hébergeurs qui a été pensé à la fin des années 90, au tout début d'Internet. Le paysage n'est pas du tout le même. Pas du tout le même. Il s'est totalement transformé. Et je crois que c'est vraiment très collectivement, puisque c'est sans frontières, hein, que les pays, la Commission européenne, en Australie, ils essayent aussi des choses, qu'on doit prendre des mesures pour réadapter en fait cette législation et ne plus les laisser être exempts de leurs responsabilités en fait.
Alors quelques chiffres que j'ai notés, un homme sur 6 a déjà ressenti de l'attirance sexuelle pour un enfant et un homme sur 10 serait déjà passé à l'acte. C'est quand même un chiffre énorme et on n'en a pas conscience en fait avant de l'entendre.
On n'en a pas conscience et je crois que c'est le chiffre que tout le monde me ressort depuis que ce film a été diffusé et je comprends pourquoi. Mais même avec presque une tentation de ne pas y croire, de dénier, est-ce que c'est bien sourcé, est-ce que vous êtes sûr, est-ce que c'est recoupé, bon. C'est le Human Rights Institute en Australie qui a mené cette étude sur 2000 hommes âgés de 18 à 65 ans. Et ça, c'est le résultat, j'ai envie de dire que c'est pire, c'est le résultat déclaré. C'est-à-dire que ce sont des hommes qui ont admis avoir cette attirance sexuelle pour des enfants et qui ont admis être déjà passés à l'acte. J'ai presque envie de dire que forcément, le chiffre noir, il est pire, en fait. Et après, j'essaye un tout petit peu, les maths, c'est pas ma passion dans la vie, mais quand même, si on revient juste aux chiffres et aux statistiques du nombre de victimes dans le monde et de victimes d'inceste, 1 sur 10 en France, c'est énorme. C'est énorme. Donc, une victime sur 10, ça veut pas dire un auteur sur 10, mais pas loin, en fait. Pas loin. Donc, si dans une classe de 30 gamins, vous avez 3 enfants victimes d'inceste, pourquoi, dans les réunions de parents d'élèves, il n'y aurait pas potentiellement 3 pères qui eux-mêmes sont passés à l'acte ou en cette attirance et luttent peut-être aussi contre cette attirance sexuelle, parce qu'il y a aussi des pédophiles abstinents qui luttent contre le passage à l'acte. Mais je trouve ça toujours assez étonnant qu'on soit surpris, mais peut-être parce que moi j'ai aussi un miroir déformant et que je travaille sur ça depuis 20 ans et que des victimes j'en vois mais des tonnes en fait et qu'à chaque film je reçois des témoignages et je me dis mais c'est pas possible quoi. Alors bien sûr encore une fois j'ai un miroir déformant, j'ai un effet de loupe en fait sur le phénomène. Mais je pense que c'est pas si loupe que ça, je pense que c'est plutôt la société qui ne voit pas du tout. Alors là ils sont dans le noir en fait, c'est ça, c'est, ils se mettent des œillères. C'est plus confortable, hein. Moi j'ai parfois des gens qui me disent « Oh là là, je vais pas pouvoir regarder là votre film, c'est pas possible. » Ah bon, et pourquoi ? J'en ai quand même une qui m'a dit « Parce que j'ai décidé que ça n'existait pas. » Je lui ai demandé si elle avait des enfants, elle m'a dit « Oui ». Je lui ai répondu que c'était une très mauvaise stratégie, après elle faisait ce qu'elle voulait. Mais on ne peut pas décider que ça n'existe pas. Ça existe, et d'autre part, je comprends que mon film soit difficile à regarder. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils ont mis 2 ou 3 fois à le regarder, pas d'une seule fois. Mais comment dire, je crois que s'il y a des enfants qui tous les jours sont victimes de ces violences, tous les jours de leur vie, avant qu'ils soient éventuellement secourus, ce qui est quand même une poignée hein, de ceux qui vivent ces violences, je crois que nous, en tant qu'adultes, jeunes adultes, on peut prendre 1h30 de notre temps et de notre énergie et de notre émotion pour s'intéresser à ce qui se passe pour ces enfants.
C'est intéressant aussi, alors il me semble que c'est vous qui avez dit ça, ou votre producteur peut-être qui était là mercredi aussi. Après avoir vu le film sur grand écran et avec le public, je crois vous avoir entendu dire que ça faisait peur quand même.
Oui, c'était assez drôle parce que Thierry Marot, donc mon producteur chez Memento, pendant le film, il m'a regardé, mais vraiment j'ai senti que c'était la première fois qu'il le regardait comme un spectateur. Il m'a dit « Putain, c'est violent ton truc !» Je me suis dit « Oui, c'est violent !» Même moi, je l'ai ressenti comme violent, je me suis dit « Oh la vache !» Parce que c'est vrai, voilà, je l'ai monté, je l'ai vu un millier de fois, je fais des projections débat avec, donc je le vois beaucoup. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, je me dis « Ouais, on n'y est pas allé avec le dos de la cuillère, mais c'est comme ça. » Enfin, à chaque fois, je fais un film et je n'ai pas envie d'y aller avec le dos de la cuillère, en fait, parce que je me dis, quitte à faire quelque chose pour faire savoir, eh ben, faut y aller, en fait. Et il faut sortir du concept ou de l'abstraction. Je me souviens, pareil, pour le procès d'inceste que j'avais filmé à Caen, ben c'est ça, l'inceste, c'est pas une abstraction. C'est un gamin de 7 ans qui vient raconter les sodomies imposées par son père. C'est cru, c'est monstrueux, c'est horrible. On préférait que ça n'existe pas, mais ça existe. Donc oui, le film pédocriminel est violent. Je crois qu'il est violent parce qu'on découvre l'ampleur d'un phénomène qu'on ne soupçonnait pas. parce qu'on n'a pas envie. On n'a pas envie de savoir ça. On n'a vraiment pas envie de savoir ce que dit Véronique Béchu quand elle dit « Vous pouvez être assis à côté de quelqu'un dans le métro qui se livre à de la pédocriminalité en ligne. Vous pouvez, ça peut être votre artisan préféré, votre boulanger, votre frère, votre père, votre meilleur pote, votre collègue de bureau que vous adorez. » Bah oui, bien sûr, c'est pas marqué hein, sur leur tête. Hein. C'est bien quelque chose que j'ai appris au cours de ces 20 ans sur ces thématiques-là, c'est qu'il n'y a pas de visage, il n'y a pas de physique, ni du violeur, ni du pédocriminel. C'est tout le monde.
Ce qui est dit aussi, c'est que la plupart des producteurs d'images pédopornographiques sont de la famille, en général.
Clairement, comme les violences sexuelles sont essentiellement commises au sein d'un cercle proche, ça, évidemment, ça n'échappe pas à la règle. Donc, en tout cas, dans mon film sur le viol sur les femmes majeures, je disais que 9 violeurs sur 10 étaient quelqu'un que la victime connaissait. Le viol de rue par inconnu existe, mais c'est statistiquement, en tout cas, là je parle des chiffres des plaintes, c'est 1 sur 10. Clairement, la pédocriminalité, il faut avoir accès à un enfant. Enfin, je veux dire, l'image du bonhomme qui vient enlever un gamin dans le jardin d'enfants ou machin, on en entend, mais c'est pareil, ça c'est l'exception. La majorité, ça va être quelqu'un qui a accès à l'enfant de manière régulière, donc membre de la famille, ami de la famille, éducateur, prof, coach sportif, enfin tout sort maintenant, tout sort. Et on voit bien que c'est toujours quelqu'un qui a gagné la confiance.
Maintenant avec l'IA, j'imagine qu'il y a beaucoup aussi de photos qui doivent être volées sur des profils, souvent de parents peut-être aussi, qui mettent leur enfant sur leurs réseaux sociaux. Et à partir de là, on peut détourner l'image de ses enfants grâce à l'IA et lui demander un petit peu n'importe quoi et n'importe quel fantasme.
Les services, les plateformes de signalement des contenus pédocriminels, aujourd'hui, doivent gaspiller un temps précieux sur des images, parce qu'il y en a beaucoup en circulation, qui sont générées par l'IA, qui sont clairement des images d'enfants volés sur effectivement les profils publics de parents, à mon avis totalement inconscients, de mettre des photos de leur gamin comme ça en public, mélangées à des images pornographiques, et tout ça pour créer une situation de viol d'enfant. Et ce temps-là qu'ils passent à identifier si elle est générée par l'IA, parce qu'elles deviennent de plus en plus réalistes ces images. Et de la même manière qu'on a un manuel du parfait pédocriminel, on a aussi maintenant des manuels, des tutoriels pour bien apprendre à son... Exactement, faire le bon prompt à l'IA pour qu'elle nous génère l'image la plus réaliste possible. Et ça ne cesse de s'améliorer. C'est-à-dire que là, on est sur une accélération de la technologie qui est en train de faire prendre une tournure aux choses qui est démentielle. C'est pas sur 10 ans qu'on voit l'aggravation, c'est sur 2 mois en fait. C'est de mois en mois, les images sont de plus en plus réalistes, de mieux en mieux faites. Donc au bout d'un moment, moi je sais plus quoi dire, je sais plus, il faut le mettre sur des banderoles, passer avec des ballons dirigeables, enfin j'en sais rien, mais arrêtez de mettre des photos de vos gamins sur les réseaux sociaux en public. Même en privé je le fais pas, mais... En tout cas, en public, ne pas le faire. Vraiment ne pas le faire.
Un dernier mot peut-être sur ce qui existe au cas où on serait confronté à une problématique, un vol d'images ou de photos et qui serait utilisé après. Parce que le problème de ces victimes aussi, c'est que ces images, elles continuent à tourner, à être partagées et repartagées et qu'il y a beaucoup de mal en fait à les supprimer.
Ça, c'est vraiment le chantier, j'ai envie de dire, des survivants d'exploitation sexuelle. C'est de vivre avec l'idée que ces images sont hors de contrôle. Il faut avoir bien conscience. Hein. Moi, je ne jugerai jamais quelqu'un qui a envoyé un nude. Mais envoyer un nude, c'est perdre totalement le contrôle sur cette image. Donc, si vous êtes en France, déjà, peut-être le premier réflexe, c'est d'appeler le 3018, la ligne d'écoute d'e-enfance. Ils ont des partenariats avec les réseaux sociaux pour essayer de faire retirer une image, si tant est qu'elle est contenue. Parce que, vous prenez juste à l'échelle d'un lycée ou d'un collège qui va faire tourner les nudes d'une collégienne ou d'une lycéenne qui les a envoyés à une personne sur WhatsApp. Il suffit juste de l'enregistrer sur son téléphone et vous ne le saurez jamais en fait. Vous ne saurez jamais où est cette image. Donc j'ai envie de dire que les dispositifs existent un peu. Il y a Point de Contact aussi, il y a Pharos, il y a pas mal de choses comme ça. Il y a le NECMEC aux États-Unis aussi. On envoie les URL, on signale. Il faut signaler. Ça, il n'y a pas de débat. Mais c'est très compliqué. Et ça fait partie du traumatisme additionnel des victimes d'exploitation sexuelle, très clairement.
C'était un entretien réalisé lors de la 32e édition du FIGRA, Festival international du grand reportage d'actualité et du documentaire de société, qui s'est déroulé du 1er au 5 avril à Douai. On était en compagnie de Laetitia Onona, réalisatrice du film documentaire « Pédocriminel, la traque », une enquête internationale sur la lutte contre la pédocriminalité en ligne. Un documentaire qui était en lice dans la compétition internationale plus de 40 minutes lors de cette édition. Interview illustrée par les premières minutes du documentaire. Le film est en accès libre jusqu'au 8 mai 2025 sur le site d'Arte.